Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous, à nouveau, pour ceux que je n'ai pas vus. Je propose que nous fassions une brève lecture dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, la deuxième partie, c'est-à-dire une très courte phrase qui nous dit ceci. Habacuc, petit prophète, mais grand prophète aussi. Et au chapitre 2, verset 4, et j'ai sous les yeux cette parole, le juste vivra par sa foi. D'autres versions nous disent, laissant Dieu parler, mon juste vivra par sa foi. Alors, il y a plusieurs semaines, j'étais interpellé par ce livre qui passe pratiquement inaperçu, 3 chapitres, vous vous rendez compte, dans une si grosse Bible. Et j'ai découvert quelque chose, enfin j'ai découvert, disons que c'est pas la première fois que je le lis, mais il y avait quelque chose sur mon cœur par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quelque chose qui aurait pu être le temps ou le siècle d'Habacuc s'il vivait en 2020-2022, c'est-à-dire notre temps. Et c'est une étude ce matin que nous allons engager, il y aura certainement une suite, mais commençons par le commencement, c'est-à-dire par le chapitre 1er. Et j'ai à cœur de vous présenter d'abord l'étude, dire quelques mots, parce qu'il s'agit d'un contexte historique, et j'y ajouterai un contexte comparatif, c'est-à-dire ce qu'il y avait il y a 7 siècles avant Jésus-Christ. Et comme le dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous connaissez, rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est peut-être pas les mêmes formes de vie, les mêmes moyens d'existence, mais toujours est-il que l'homme reste l'homme. Et nous allons justement, parler un peu d'histoire. Et de cette histoire qui rentre dans l'actualité de notre temps. C'est ce que je disais il y a un instant. Et nous voyons que hier, comme aujourd'hui, c'est un climat, en ce qui concerne Habacuc, c'est un climat d'avant-guerre. C'était sous des rois de Juda impies, Manassé entre autres, qui était véritablement une dissolution de la société, du monde de l'époque, où la décadence était partout, qu'elle soit politique, religieuse, sociale, une véritable débandade dans le peuple de Dieu, dans la nation de Juda, dans la nation d'Israël, et puis alors, que vous dire, dans le monde païen qui était environnant, naturellement. Le thème, c'est tout simplement, et peut-être vous êtes déjà posé la question, comment Dieu, qui est juste et bon, peut-il se servir d'une nation cruelle pour corriger son peuple rétrograde ? Voilà, on nous présente dans ce que la Bible nous dit, sous deux formes. Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu terrible, un Dieu qui punit, un Dieu qui condamne. Ou alors, à ce moment-là, on le présente également, un Dieu qui est éminemment bon, il est juste, il est rempli de compassion pour ses créatures. Alors, c'était véritablement la perplexité du prophète Habacuc qui se disait « Mais comment cela peut-il se faire ?» Et nous voyons que nous avons cette comparaison, si nous allons le rapprocher de notre temps, Mais comment Dieu peut-il traiter son peuple comme cela? Et il va le traiter d'une manière assez, enfin, à la fois, surprenante, mais ça a toujours été ce qui s'est passé dans les temps pour le peuple d'Israël, mais comme dans le temps des nations. Et nous allons justement nous expliciter cette pensée. Comment peut-il corriger son peuple par une nation dont nous allons dire le nom d'ici quelques instants? Et comment peut-il ramener son peuple d'Israël et de Juda à lui par des événements tragiques? Parce que Dieu n'a jamais cessé de parler à Juda ou à Israël. Jamais. De l'encourager par des prophètes, de l'encourager par des exhortations, de le bénir, de le choyer par rapport peut-être à d'autres nations, et que finalement rien n'y a fait. Israël a toujours été réfractaire, obstiné, provoquant Dieu d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que l'on fait lorsque, peut-être, c'est peut-être plus très courant aujourd'hui et c'est peut-être plus à la mode, mais quand des parents ont des difficultés avec un enfant qui est rebelle, ben on lui donne une éducation. Peut-être va-t-on lui donner le mettre sous une discipline. Peut-être va-t-on le corriger d'une façon ou d'une autre pour qu'il enfin devienne un homme. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Dieu a tout essayé. Dieu a multiplié les moyens, mais on s'aperçoit que rien n'a été fait. Il ne restait plus qu'une solution. C'est-à-dire confronter le peuple de Juda et d'Israël avec, eh bien, une guerre, avec des guerres. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Juges. Si vous lisez le livre des Juges, qui est le livre, c'est le Moyen-Âge d'Israël, en quelque sorte, eh bien, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait Madian qui était là, il y avait les Syriens qui étaient là et qui redressaient le peuple. Et le peuple, devant la misère qu'il connaissait à travers ses conflits, ses confrontations, eh bien, revenait à Dieu, se repentait et repartait de nouveau. C'était un enfant difficile, hein, Israël. Alors, le prophète Habacuc va interroger Dieu. Oui, c'est pas défendu d'interroger Dieu sur ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ceci? Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette détresse? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ceci et cela? Mes questions ne répondent pas à tout. Hein. Et il ne faut pas radicaliser, hein, de dire, eh bien voilà, c'est en raison de ça, c'est en raison de ceci. Ça va beaucoup plus loin que ça, d'ailleurs, la réflexion. Donc le prophète se tourne vers Dieu, et Dieu lui répond, et il dit cette parole, parce qu'il va suivre tout le long de l'étude. Dieu lui dit, « Seul vivra l'homme qui met sa confiance en moi. » Voilà, c'est clair. « Mon juste vivra par sa foi. » Nous l'avons entendu ce matin, à travers des louanges et à travers la prophétie qui a été donnée. Alors, je voudrais d'abord vous parler des protagonistes en présence. Il y a Israël, Juda, le peuple de Dieu, qui doit être, maintenant, après avoir été sollicité par la tendresse, l'amour, les compassions de Dieu, qui doit être corrigé et redressé, et en face d'Israël, il y a une nation païenne, redoutable, dont les faits, parce que c'est écrit, c'est l'histoire, hein, dont les faits de sauvagerie sont patents. Je dis bien de sauvagerie et de cruauté. Ceci, eh bien, se caractérise, ces derniers se caractérisent, tout simplement à travers quelques exemples que je voudrais citer, où Dieu, dans le chapitre 2, dira, du livre d'Habacuc, « Malheur à ceux qui s'emparent avec avidité ce qui appartient aux autres. » Ça s'appelle une invasion d'une nation sur un autre peuple. Et puis, également, « Malheur à ceux arrogants qui se justifient des moyens de conquête les plus cruels. » On parlera un petit peu de ce peuple. Il y a ceux également qui accèdent au pouvoir par la barbarie, que l'on appelle de tout temps les envahisseurs, les dominateurs, les destructeurs et les terroristes. ceux qui sont adorateurs d'idoles. Alors ça, ça aurait dû être cité même en premier. Imbus de leur force, de leur succès, et particulièrement de leur conquête militaire. D'un côté, il y a Israël, qui est répréhensible aux yeux de Dieu parce qu'il est, désobéissant à la volonté de ce Dieu. Et de l'autre, il y a ce que l'histoire a appelé les Chaldéens. Alors, laissez-moi vous dire, j'espère que vous aimez l'histoire, mais les Chaldéens, c'était un tout petit peuple au départ. Une nation qui, quelque part, eh bien, était insignifiante. Et Chaldéens, Babylone, si vous voulez. Mais dans le texte, c'est les Chaldéens. Ce peuple chaldéen a pris de l'ascendant. Il est devenu très fort jusqu'au moment où il a renversé l'empire existant à l'époque. C'était les Assyriens. L'Assyrie. Pas l'Assyrie, celle que nous connaissons aujourd'hui, mais l'Assyrie dans le même mot. Et nous voyons que de faibles qu'étaient les Chaldéens au départ sont devenus un empire colossal. Et ils se caractérisaient par la cruauté. On crucifiait déjà à l'époque. L'histoire de la crucifixion de Jésus, 7 siècles auparavant, eh bien, était déjà connue chez les peuples de Mésopotamie. Et nous voyons que il y a là un renversement de tendance. Comme à travers 2000 ans de notre ère, il y a eu la chute de l'Empire romain. Il y a eu toutes sortes de dominateurs qui sont apparus sur notre terre. Je parle de surtout le monde occidental. À travers des renversements, à travers des empires, à travers des rois, à travers toutes sortes de choses, ils se renversent les uns les autres. Et de petits, ils deviennent grands. Et ces grands vont devenir après tout petits parce qu'ils vont être vaincus par d'autres. Ça a toujours été l'histoire. Quand vous regardez la statue révélée par Daniel, vous savez, la tête d'or, Babylone. Ensuite, il y a les Mèdes et les Perses, ceux dont nous parlons là. Et puis ensuite, il ne faut pas que j'en oublie, mais peu importe. Mais il y a après les Grecs, Alexandre le Grand. Ensuite, il y a les Romains, comme un château de cartes, vous savez, un jeu de dominos. Et ils disparaissent les uns après les autres parce qu'ils ont vaincu, mais après ils sont vaincus eux-mêmes. Et je crois qu'il y a donc Israël et de l'autre les Chaldéens qui seront, après leur victoire sur le peuple élu, c'est-à-dire la victoire qu'ils vont prendre sur Israël, seront châtiés à leur tour. Écoutez bien ça, parce que ça va être le thème de notre première étude. Ils vont être vaincus, ils ont vaincu, mais ils vont être vaincus ensuite. J'aimerais vous donner quelques faits d'histoire, si vous voulez, c'est-à-dire de cause à effet. Croyez bien que le mal qui est fait, quelle que soit l'intensité de ce mal, sera toujours payé en retour. Vous vous souvenez qu'au mois d'août, j'avais apporté une étude sur « Ne faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse ». Parole de Jésus, vous en souvenez? Ce qui nous met quand même un petit peu en garde de réfléchir avant de dire ou avant de faire ou avant de traiter nos semblables avec dureté ou méchanceté. Parce que tôt ou tard, ça nous arrivera aussi. Et nous voyons qu'il y a là un phénomène de cause à effet. Parce qu'il y a un temps qui efface ou que nous croyons que le temps efface, mais il y a aussi un temps qui retient le souvenir. Parce que si nous nous oublions, dans le ciel, il y a un Dieu qui n'oublie jamais. Ah oui. Dieu sait. Et ce qui nous déroute, c'est que l'intervention de Dieu pour régler les problèmes, c'est qu'il ne le fait pas rapidement. Il peut se passer des années, des décennies, voire même des siècles, et on s'aperçoit que, eh bien, Dieu règle les problèmes, et les générations qui nous semblent pour rien, quelquefois vont payer le prix fort. Ça, c'est assez... Et c'est l'histoire d'Habacuc. Vous allez voir, vous allez le découvrir. On va ouvrir progressivement, finalement, les pages. Et on va voir que ça, c'est l'histoire de la Bible. C'est l'histoire d'un Dieu qui, finalement, eh bien, parce qu'il est juste, va vouloir demander justice sans considérer que le Dieu est un Dieu vengeur, que c'est un Dieu qui écrase par plaisir, finalement, de détruire. C'est les hommes qui détruisent, c'est pas Dieu. Et Dieu veut que nous vivions. Celui qui, à la foi en Dieu, vivra. Nous l'avons lu. Hein. Mon juste vivra par la foi. Tout le monde n'a pas la foi. Hein. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a une apparence de foi qu'on appelle religion, mais qui n'a rien à voir avec la foi en Dieu. C'est la Bible qui le dit, et c'est surtout l'Évangile qui le proclame. Moi, je voudrais vous parler de la civilisation actuelle. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Vous non plus, je suppose. Moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas voyant, et je porte des lunettes quand même. Ce qui m'aide. Mais, bon, passons. Une chose qui est certaine, c'est que nous vivons des temps où je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes tous au courant de ce qui nous environne. On a pensé pendant très longtemps que le siècle dernier était un siècle de sang et de feu. On s'est dit, plus jamais. Non, on ne connaîtra pas ça, parce que maintenant on a les moyens. Et on s'est donné une arme que l'on appelle une arme de dissuasion. Donc, chacun reste dans son coin en disant, attention. Mais on s'aperçoit que ça reste éminemment dangereux. Parce que on a utilisé et on utilise finalement quelque chose qui est absolument terrible et abominable, dans ses résultats naturellement. Alors, civilisation actuelle. Dans un monde où vous le constatez avec moi et sans être des redresseurs de tort, mais nous avons des yeux et des oreilles, et on sait très bien, finalement, eh bien, reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Normalement, c'est comme ça. Quand on considère tous les dérèglements qu'il y a dans nos sociétés, quand on considère la folie des mœurs, je ne juge pas, je constate. Quand on considère les outrances de notre monde occidental, et puis sans compter les autres, parce qu'ils ont là aussi leur petite affaire. Hein. Quand on considère les désordres qui existent, parce que tout ça c'est sur le plan moral, c'est l'éthique, c'est moral. Eh bien il y a des conséquences nous les avons déjà. Vous savez, celui qui boit se détruit. La drogue fait des ravages parmi les hommes et les détruit. La mort est présente en conséquence de ceci et cela. Il y a des choses qui sont anodines, mais il y a des choses qui sont gravissimes aussi. Alors, les conséquences, elles se traduisent dans la pensée d'Habacuc par des guerres, par des invasions. On va le voir dans la suite, par des destructions, par des cruautés. Eh oui, parce que quand l'homme est lâché avec la puissance du mal, il ne sait plus où s'arrêter. Et il y va. Et autant ça nous est rappelé très souvent à travers des films, à travers des reportages de ce qui s'est passé dans la première partie du XXe siècle avec toutes les abominations de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, mais jusqu'où l'homme est capable d'aller ? Génocide, un mot qui n'existait pas avant 1945, mais ça a toujours existé dans l'histoire, c'est-à-dire l'élimination d'un peuple ou d'une nation pour qu'elle n'ait plus existence. Et nous voyons que il y a ce témoignage contemporain que je voudrais dire en deux mots, c'est-à-dire que ce XXe siècle dont je parlais il y a un instant, que je citais, a été véritablement des temps de tragédie. Mais il y en a eu avant. Le XIXe siècle n'était pas mieux. Et puis les siècles auparavant n'étaient pas mieux. Le Moyen-Âge n'était pas mieux quand on lit un petit peu ce qui s'y passait. Alors ce n'était pas des rassemblements de millions d'hommes qui se retrouvaient sur un champ de bataille. Peut-être 10, 15 000, 20 000. Ah, ça faisait beaucoup à l'époque. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de considérable. Peut-être même nous allons atteindre des sommets où ça va être la terre entière qui va être enflammée. On parlait de guerre mondiale, mais elle n'était pas tout à fait mondiale de toute façon. Elle était si vous voulez, mais aujourd'hui ça va être une guerre totale. Si elle existe, si elle vient, si Dieu n'intervient pas. Vous savez qu'il y a un principe dans la Bible, et on l'a vu et ça se vérifie, même après toutes ces tragédies du XXe siècle, et ça c'était quelque chose qui marquait particulièrement Israël, qui concernait Israël, c'est que Dieu disait qu'il prenait un petit reste pour en faire un renouveau, une renaissance. Ce qui restait, naturellement. Alors, en parlant de ces atrocités de ce siècle, du XXe siècle, vous savez, les gens, il y a toujours eu des pauvres et des riches. Il y a les profiteurs, et puis il y a ceux qui sont finalement un peu à l'image de Lazare, dans la parabole de Jésus, hein, qui sont au pas de la porte, et qui, quelque part, n'ont rien pour vivre. Et Lazare, ça veut dire celui qui espère. Mais le bonheur, il n'est pas sur cette terre. Il peut l'être, quand il est partagé avec d'autres. Mais il y a un cancer qui s'appelle l'égoïsme. Oui, l'orgueil. Alors, avant, finalement, la Première Guerre mondiale, il y a eu une époque de folie, qu'on appelait la Belle Époque. Pas pour tout le monde, hein. Mais c'était comme ça. Les gens étaient débridés. Les gens faisaient ce qu'ils avaient envie. Et puis, ça, c'était avant. Après 1919-1920, jusque dans les années 35, eh bien, il y a eu les années folles. Alors là, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et je me dis, mais déjà, à cette époque, ils étaient comme ça. Alors, pas partout, hein, pas dans les provinces et tout ça, mais dans les grandes capitales et tout ça, on faisait aussi n'importe quoi. Des choses qui étaient profondément scandaleuses et choquantes. Parce qu'on avait vécu la guerre et on voulait vivre maintenant. Alors, au lieu de vivre normalement et de pouvoir reprendre le bon chemin, eh bien, les gens, véritablement, se laissaient à l'indécence, l'immoralité. Il n'y avait plus rien qui tenait à ce moment-là. Et après, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Alors là, on a déchanté, hein. Ça a duré 5 ans de traitement. C'était quelque chose. Parce qu'on est passé de l'impérialisme qui s'est effondré en 1919 avec la Première Guerre mondiale, et on est passé au nazisme, au fascisme, et là, ça a été la botte qui écrase. Ouais. Alors les choses se sont un peu rétablies dans les années 50, qu'on a appelé pour nous les années glorieuses. Enfin bon, c'était quelque chose dont nous sommes issus aujourd'hui. Je ne sais pas comment vont vivre nos enfants, si véritablement les choses se explosent. Nous, on a connu, quand on était petits, vous savez, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains, on n'avait pas grand-chose, on n'avait même pas l'eau encore dans les maisons. Ouais, l'électricité, on l'avait, ça c'est sûr. Puis c'était petit-petit, hein, c'était vraiment... Mais aujourd'hui, à une génération à laquelle on a tout donné, mais vraiment, c'était une bonne chose de donner à ce qu'ils avaient besoin. Mais comment vont-ils supporter? Si véritablement, eh bien, le monde doit repasser. Parce que ça vient, ça passe et ça repasse, d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que tous ces troubles du siècle dernier, parce que c'est notre histoire, nous la connaissons, eh bien, fini, celui qui était véritablement l'envahisseur, celui qui a écrasé le monde, autant l'Allemagne que le Japon ont été écrasés eux-mêmes. Puis de quelle manière pour le Japon ? De quelle manière pour l'Allemagne? Terrible! Catastrophique, il ne restait pas pierre sur pierre, si on veut comparer avec le temple de Jérusalem. Eh oui. Bon, je ferme la page. Comment ça s'est passé avec l'Égypte, qui a emmené captif un peuple qui s'appelait le peuple hébreu, pour construire les pyramides, tracer les canaux dans l'Égypte qui ont rendu ce pays, cet empire, extrêmement prospère? Eh bien, ça s'est passé qu'après 430 ans d'esclavage en Égypte, les Hébreux, sous la direction de Moïse, sont sortis d'Égypte. Et là, il y a un test extraordinaire, c'est que Israël est sorti, il s'est trouvé devant la mer Rouge, on ne passait plus. L'Égypte courait derrière avec ses chariots de feu et de fer. Israël est passé par la grâce de Dieu et l'Égypte a fini tout simplement au fond de la mer Rouge. C'était comme cela. La prochaine fois que l'on va se voir, je vais vous donner un fait qui concerne l'Ukraine et la Russie. Parce que c'est bien ce que l'on vit aujourd'hui. Alors on a des... Nous on est bien, on se dit, on est loin. Faisons attention. Alors... On a quelque chose, je vais avancer un peu dans l'étude. On a parlé tout à l'heure, le thème, qui est celui d'Habacuc, c'est comment comprendre qu'un Dieu bon et juste puisse se servir d'une nation cruelle pour traiter les problèmes de son peuple. Hier Israël, aujourd'hui l'Église. D'accord ? Le peuple de Dieu. Comment ? On a parlé naturellement des protagonistes de ces deux courants. Et puis maintenant, eh bien, on va en arriver à ce petit texte que nous avons lu tout à l'heure. Le juste vivra par sa foi. Le prophète Habacuc vit et écrit l'histoire tragique de son temps et de son pays Israël menacé par la guerre. Ouais. Parce que c'est ce moment-là. Hein. Et il faut replacer, comprenez-le bien, il faut donner sa place à l'histoire dans le plan de Dieu et non pas considérer que tout ça c'est fortuit, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans une vie personnelle, il n'y a pas de hasard, même dans la vie des peuples et des nations. Il y a dans le ciel un Dieu qui a des oreilles pour entendre et qui a des yeux pour voir. Et il voit bien, et il voit clair et entend bien. Même si les temps semblent recouvrir un petit peu de poussière tout ça en disant « Oui, c'était !» Mais si le problème n'a pas été réglé, à commencer par le cœur des hommes, eh bien, il y a de fortes chances que rien ne soit réglé, tout simplement. La Bible nous parle du sens de l'histoire. Elle nous en parle. Quand on lit les livres historiques dans la Bible, ouais, il y a les livres prophétiques, il y a les livres poétiques, et puis, il y a les livres historiques, avec tous les rois d'Israël, de Juda, etc., etc. Ce n'était pas toujours que du beau, hein, il faut bien le reconnaître. Hein. Par contre, il y a eu des hommes qui se sont distingués, même parmi les rois, qui ont été véritablement des hommes illustres. Moi, je pense à David, etc., et puis il y en a d'autres. Hein. Ce livre d'Habacuc est en rapport avec l'actualité mondiale. Je l'ai dit et je le répète. Une sorte d'introduction, écoutez bien, à l'Apocalypse à venir. Avec le livre de Daniel, c'est véritablement l'introduction eh bien, à l'Apocalypse, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible. Il y a la Genèse, le commencement, et il y a la fin, l'Apocalypse. Que l'on a appelé la grande et la longue tribulation où il nous est présenté une terre à l'agonie. C'est vrai qu'il y a eu des choses extraordinaires sur cette terre. C'est vrai qu'il y a des gens intelligents qui ont été dotés d'une sagesse extraordinaire. Et on a découvert des choses. Moi, je préfère vivre encore à mon siècle que de vivre au Moyen-Âge. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a eu des améliorations, il y a eu des choses formidables. Et on peut bénir Dieu pour ça. On peut le bénir. Mais à côté de ça, on s'aperçoit que le monde ne suit pas cette voie de Dieu. Ne connaît pas et ne veut pas connaître non plus. Alors, autant l'histoire que la science, parce qu'on ne peut pas non plus évincer la science des hommes, si l'on veut bien prendre en considération ça, cette science des hommes et l'histoire ne sont jamais parvenus à solutionner les drames de la guerre. On invente toujours des armes super puissantes. On invente encore des méthodes de destruction, enfin toutes sortes de choses semblables. Et on peut dire que tous les efforts, et moi je veux bien croire, qu'à travers les instances mondiales qui ont été avant, les instances mondiales que nous avons encore aujourd'hui, eh bien malgré tous les efforts, les sacrifices, les résolutions, les traités que j'appellerais de paix, n'ont jamais pu atteindre le parfait définitif. À la fin de la guerre 14-18, on a dit c'est la der des der, c'est-à-dire que c'est la dernière. Eh bien, je peux vous dire qu'on était servi après. Parce que même si elle était mondiale, la deuxième, ça n'a, à cause de la colonisation et à cause de toutes sortes de choses, ça a toujours été, ici ou là, des feux, des incendies allumés dans le monde entier. Nous, on a eu notre Algérie, hein, l'Indochine, etc., etc. Et puis, tous les pays sont passés d'une manière ou d'une autre. Domination, écrasement, et tout ça pour une raison économique, hein. Territoriale. Soi-disant pour éduquer les peuples à penser comme on pense. Et à être comme on est. Et ben, Babel, c'est fini. On peut le dire. Et nous voyons que le parfait définitif n'a jamais été encore atteint, et on essaie aujourd'hui, avec des efforts, et on déploie des efforts. La guerre ne s'est jamais arrêtée, la mort ne s'est jamais arrêtée, par le sang et les champs de bataille. Et qu'on puisse dire enfin, l'enfer n'existe plus. Eh bien, l'enfer existe plus que... Enfin non, il a toujours été. Eh oui, ça c'est le grand désir des hommes de bonne volonté, des hommes de droit. C'est quelque chose de terrible. Ah oui, c'est quelque chose. Et vous savez, on se bat. Et vous savez, il y a des instances. Mais c'est des instances qui sont déshumanisées. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Parlement à Bruxelles, le Conseil de l'Europe. Comme ça, parce qu'on m'y avait invité, non pas parce que je suis politique, mais parce que je connaissais quelqu'un qui avait des entrées. Vous savez comment on appelle à Bruxelles ? On l'appelle la bête. Et on ne traite pas la paix avec une bête. Ouais. Et d'ailleurs, quand on y était avec mon épouse, on a ressenti quelque chose qui était froid, qui était glacial. C'était politique, c'était véritablement quelque chose de terrible. Moi, j'en ai encore le souvenir, hein, ça fait quelques années de cela. Mais où est la compassion, où est l'amour? Mais il n'y a pas de compassion et d'amour dans ce monde, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, et c'est possible que lorsque le cœur d'un homme se convertit à Jésus-Christ et qu'il naît de nouveau, il n'y a pas d'autre solution. Mais dans les instances politiques froides, où il y a l'économie, où il y a toutes sortes de choses, mais c'est terrible. Hein. Bon, c'est comme ça. Instaurer une paix durable. Alors, Habacuc exprime son angoisse. Si vous lisez avec moi, premier chapitre, versets 1 à 4. Oracle, révélation, si vous voulez, d'Habacuc, le prophète. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié ?» Et c'est un homme qui a véritablement au fond de son cœur, eh bien, à la fois l'amour de Dieu, l'amour de son pays, et qui, quelque part, eh bien, ne peut pas supporter tout ce qui se passe autour de lui. « Et tu n'écoutes pas !» C'est presque un reproche à Dieu. « Et tu n'écoutes pas, Seigneur !»« J'ai crié à toi la violence, et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ?» Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et des discordes qui s'élèvent. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voilà. Il crache le morceau, si vous permettez. Et il s'adresse à Dieu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi toi qui es bon et juste, tu permets des choses comme cela? Quand on voit dans certains pays aujourd'hui, c'est terrible. Quand en Afghanistan, on marie des petites filles de 6 à 7 ans, ben oui. Quand on est en train d'écraser les enfants qui sont innocents, on les voit à la télévision tous les jours, hein, en Ukraine. Quand on voit que là, on fait des tapis de bombes pour, comme en Syrie, par exemple, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets le mal ? Pourquoi il y a une telle cruauté? Pourquoi il y a tant de sang et de feu? Et là, le prophète, il est là, en quelque sorte, l'expression de sa, pas de sa terreur, mais de cette atrocité et de ces abominations. Et ça, c'est quelque chose, naturellement. Alors, nous entrons à l'heure, devant ces cris du prophète, nous entrons tout simplement dans l'étrangeté des voies de Dieu. Oui, c'est étrange. On nous a appris un Dieu qui est comme ça, et puis finalement, eh bien, dans la vie des hommes de la terre, ben, c'est pas ce qui se passe en réalité. L'étrangeté des voies de Dieu, à savoir ceci. Comment les événements tragiques du monde sont compatibles avec sa sainteté? Sa grandeur. On nous dit que Dieu est grand. Et comment Dieu tire parti du mal apparent? Parce qu'il est apparent. Enfin, il est là. Il est visible. Mais pour nous, nous n'avons qu'une apparence. Pour le plus grand bien et sa gloire, parce que la Bible vient au secours de cette question, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins, qui nous revient à dire, le juste vivra par sa foi. pas par sa religiosité, pas par ses bonnes œuvres, pas d'une manière ou d'une autre où les hommes se glorifient d'être mieux, bons, justes. Non. Comment on peut concilier tout cela? Le prophète doit comprendre deux faits. Et nous avons besoin de comprendre ces mêmes choses. Le premier, c'est l'inaction de Dieu et ses permissions de laisser faire l'iniquité commise même en son nom. Dans les deux dernières guerres, les Français priaient de leur côté, les Allemands avaient sur leur ceinturon « Gott mit uns », « Dieu avec nous ». Alors, vous faites la différence, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir hein? Et pourtant, c'était des nations chrétiennes, catholiques, pour la plupart protestantes aussi. Mais aujourd'hui, la Russie orthodoxe, l'Ukraine orthodoxe, bénit chacun de son côté. C'est ce que nous dit finalement, verset 2, « Jusque à quand, Éternel ? J'ai crié, tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ? C'est terrible. » Vous savez, Job, par rapport à sa propre vie, disait la même chose. Lui, c'était beaucoup plus perso. Ensuite, Dieu a des intentions providentielles inattendues, mais toujours au temps fixé par lui et pas par nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter la guerre. Elle dure, elle continue, et on se dit, mais comment peut-on faire? Ah oui, c'est Dieu qui dirige toutes choses, parce que Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Et croyez bien qu'il n'est pas absent de ce monde. Il est même plus que présent qu'on ne le pense. Mais faut-il avoir des yeux pour voir, des oreilles pour l'entendre, et nous parler? C'est pour ça que j'appelle tout simplement des intentions providentielles et inattendues. Et Dieu, quelquefois, peut nous surprendre. Et peut-on dire aussi que, eh bien là, quand la situation s'empire, avant qu'elle ne commence à s'améliorer. Et c'est ce qui va se passer pour Israël. Avant qu'elle s'améliore, elle va s'empirer. Et nous vivons des temps, peut-être, où les choses vont s'empirer. Accrochez vos ceintures, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas encore sur les chaises ici. Mais attention, on pense toujours au meilleur. Il faut régler vraiment les vrais problèmes, qui sont avant tout pas des problèmes économiques, des problèmes territoriaux ou des choses comme ça, mais des problèmes moraux à l'intérieur de nous-mêmes, un cœur transformé et changé. Dieu fait silence. Pourquoi Dieu, tu te tais? J'ai crié à toi et tu ne me réponds pas. Et Dieu va agir dans la circonstance du temps d'Habacuc. Il va agir avec un instrument particulier, c'est tout simplement, il va susciter les Chaldéens pour traiter les problèmes récurrents du mal, et pourtant ce sont des gens de mal extrême. Ouais, le mal par le mal, ça va, quelque chose, c'est étonnant. Et voilà un sujet de grande perplexité pour Habacuc, quand Dieu va utiliser des impies, des fous, des cinglés, mais des gens qui sont complètement hors de la raison, hier comme aujourd'hui. Des ennemis, des forces étrangères opposées. Le monde, il va se servir même du monde. Et il va nous donner des réponses, celles qu'on attend le moins, pour montrer qu'il est Dieu. Et vous savez, dans l'histoire des Hébreux qui sortent d'Égypte, il est dit que Dieu va se glorifier par sa puissance. Là où les hommes vont baisser les bras, Dieu va dire, eh bien, c'est moi qui suis souverain sur la terre. C'est pas vous avec toutes vos combines, toutes vos traités, toutes vos choses comme ça, c'est moi. Et c'est pour ça qu'il est dit, vous pourrez le relire un petit peu plus tard si vous voulez, dans Habacuc chapitre 6, il est dit ceci, « Voici, il répond au prophète, voici je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impérieux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. » Ce sont deux adjectifs qui sont synonymes. Terrible et formidable. Formidable, la force. Mais la force brute. Pourquoi Dieu a-t-il élevé ce terrible peuple contre Israël et ensuite pour le renverser? C'est la question. Parce que la réponse, finalement, elle est simple. Dieu dirige l'histoire, il dirige l'histoire et chaque nation est dans sa main. Et il règne surtout, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a son heure. Je ne sais pas si on peut encore aller un peu plus loin, ça va ? J'espère que je ne vous endors pas. Hein. Parce que moi, il me semble que je suis bien éveillé. Hein. Ou réveillé. On va aller un peu plus loin. Le chapitre 2, simplement le début. Je lis le verset premier. C'est le prophète qui le dit. « J'étais à mon poste » et vous voir toute l'importance d'un chrétien être à son poste. « Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Vous avez remarqué, « J'étais à mon poste sur la tour. Je veillais pour voir. » Une église endormie ne peut pas voir. Il y a quand même un minimum d'éveil hein, dans une église. Et pour cela, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, un esprit de discernement, un esprit qui nous ouvre sur ce que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre. Et je pense que c'était un homme de l'esprit, le prophète. Heureusement d'ailleurs. J'étais à mon poste sur la tour, je veillais pour voir. Une tour, qu'est-ce que c'est ? Il y en a beaucoup, hein. Si vous allez en Israël ou au Moyen-Orient, vous verrez tout ce qui peut rester, qui n'a pas été finalement viabilisé en ville, hein, parce qu'il y a encore quelques campagnes. Il y a encore des tours. Mais même chez nous, hein, vous allez dans les régions viticoles, eh bien, vous verrez, il y a des petites maisonnettes. Enfin, c'est dans le Midi, c'est différent. Ici, c'est encore autre chose. Et là-bas, en Israël, puisqu'il s'est vallonné, il y avait des tours. Et on y mettait un homme. Pour que, quand il y avait des razzias de barbares qui venaient pour détruire, pour prendre voilà, tout ce qu'il y avait dans les champs, eh bien, il y en avait un qui veillait jour et nuit. Ou plusieurs qui veillaient jour et nuit pour faire l'alerte, pour donner l'alerte. Une tour doit user nos yeux et nos oreilles. Parce que on va voir que, quelque part, il s'agit de voir et d'entendre. Et le monde se bouche les oreilles. Et il se bouche les yeux. Il est aveugle. C'est pour ça que Jésus dit qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il a guéri des aveugles physiques, mais pour nous montrer que nous avons besoin d'être guéris aussi de notre cécité intérieure. Notre âme, notre cœur, qui est quelquefois comme de la pierre. La tour, c'est une position d'observation stratégique avantageuse. Si vous voulez voir de loin, il ne faut pas vous mettre dans un trou. Hein. Ça s'appelle une tranchée, ça. C'est quand la guerre est commencée, là. Mais avant que la guerre ne commence, avant que les ravages ne se fassent, eh bien, on met cette vigilance et c'est quelque chose d'avantageux. C'est un lieu élevé, c'est-à-dire au-dessus d'eux. Et moi, je crois que nous avons besoin, et Dieu, par la vie spirituelle qu'il nous donne, non pas d'être des êtres supérieurs, non pas d'être meilleurs que les autres, mais il nous donne de voir ce qu'il y a en dessous. Lorsque nous considérons un monde tel qu'il est, et de pouvoir finalement eh bien, juger à bon escient. Je ne veux pas savoir. Ça, ce n'est pas forcément la solution. Et je crois que Dieu nous a donné à travers sa parole que vous lisez, à travers la prière qui vous permet d'avoir les indications du Saint-Esprit, qui répond aux questions, peut-être pas toutes comme vous voulez, et peut-être pas immédiatement, mais Dieu nous met sur un lieu élevé. Et il nous dit, l'Église est un lieu élevé. Non pas que nous voulons être mieux que tout le monde autour de nous, nous sommes des hommes comme les autres, et nous sommes des pécheurs aussi. Mais avec l'information que Dieu nous donne, eh bien, nous avons été élevés. Il y a un beau texte que j'aime particulièrement. J'en aime quelques-uns dans la Bible, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des textes. Mais toujours est-il, moi j'ai toujours pensé que le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 21, c'est très poétique, hein. Si vous aimez les poèmes, c'est ce qu'il faut lire, hein. Il faut lire la Bible. Ésaïe, chapitre 21, verset 11, il y a cette parole On me crie de Séir, c'est une province. Hein. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Le matin vient, et la nuit aussi. Je dirais que avant que le matin vienne, il y a eu la nuit. La sentinelle répond, si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Eh bien, c'est ça le message. On est monté sur la tour et notre message, c'est celui du royaume de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus est venu dire hein, dans les évangiles. Tout simplement, sentinelle, que vois-tu? Église de Dieu, chrétien, que vois-tu? Dans la nuit de ce monde, ben, on ne voit pas que des belles choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne voit pas que des belles choses. Une tour au sens figuré comme au sens propre. Parce que Dieu est souvent comparé à une tour, à une forteresse, à une montagne élevée, une protection de défense qui informe l'assiégé, le prévenant des surprises mauvaises, agressives et sauvages. Un chrétien doit être sage comme une colombe et prudent comme un serpent. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Luc. Autrement, c'est une petite tête qui ne tient pas compte, finalement, eh bien là, des paroles du Seigneur. Futile, léger, superficiel. Alors, avant de terminer, rapprochons les temps. Rapprochons le temps d'angoisse du prophète à ceux d'aujourd'hui, et je voudrais vous donner quelques bombes idéologiques qui mènent le monde à sa destruction. Qui mènent le monde, finalement, à sa destruction. Bombes idéologiques. Parce que ça passe d'abord par l'idée. Et cette idée, elle va faire naître des bonnes ou des mauvaises choses. Elle va faire naître la convoitise, la jalousie, enfin tous les péchés que nous pouvons imaginer, l'égoïsme, voilà, des peuples. Quelques faits d'actualité, mes frères et sœurs. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a un siècle, mais je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Notre monde est soit en flamme ou en submersion. Alors là, je ne parle pas d'écologie seulement, mais c'est ça. Il y a cet auteur chrétien, comment il s'appelle hein, Le Monde en Flamme, vous l'avez lu le livre. Comment Billy Graham, ouais, il a écrit un livre extraordinaire, il l'a écrit dans les années 70-80, ben je pense que si vous le relisez aujourd'hui, vous direz, ben, il était dans le mille, hein. Excusez-moi l'expression. Ou alors en submersion. La submersion, c'était le déluge. Et vous savez pourquoi il y a eu le déluge? Et aujourd'hui, ce ne sera pas le déluge seulement, mais il y aura le feu partout. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu ce qui se passe. Ils ont du travail, les pompiers. Déluge et embrasement. La guerre partout, le totalitarisme qui se répand, le fascisme, les démocraties et ses faiblesses. Quand Daniel a cette vision du géant, il parle de Babylone et des empires antiques. Il dira la tête, etc. Hein, on l'a cité tout à l'heure. Mais il parlera des pieds, qui représentent les jambes et les pieds de l'Empire romain. Il dira, mais ça sera une composition de fer et d'argile, des pieds de fer et des pieds d'argile, pour montrer à la fois la dureté de l'Empire romain qui a duré à peu près 450 ans, et puis la fragilité à travers nos démocraties issues de l'Empire romain. Et vous savez, ça ne tient pas, ça. Hein. Soit elles sont d'argile, complètement, ou elles sont de fer. Mais l'alliage entre le fer et l'argile, ça ne tient pas, ça s'écroule. Et voilà la statue des siècles, la statue des empires, la statue de tous ces puissants dans le monde depuis des milliers d'années, enfin au moins pour plus que 6000 ou 7000, mais toujours est-il, eh bien ça s'écroule les unes après les autres. Parce que ce sont des pensées, ce sont des politiques où, depuis la tour de Babel, ils ont dit « Dieu dehors !» Dieu dehors. Ah ben, voilà. Mais on ne construit pas avec celui qui est le Créateur, le Parfait, le Saint, le Juste, celui qui a donné sa vie sur la croix à travers un simple homme, Jésus, pour nous sauver, pour sauver l'humanité. sauver toute l'humanité. À travers la violence des nations, je rajoute, l'autorité bafouée, les lois naturelles transgressées, l'immoralité érigée en mode de vie, et on est content finalement de faire ce qu'il ne faut pas faire, ou de vouloir faire ce que l'on a envie de faire. À travers le dieu argent. Oui, oui. Le profit avant tout. L'injustice et le mensonge comme moyen de mode de domination. C'est assez curieux qu'aujourd'hui, dans les deux camps là, que nous sommes en train d'observer, dès qu'il y en a un qui dit « voilà, la vérité », l'autre dit « ben non, c'est du mensonge, hein, c'est pas moi, c'est lui ». Alors avec ça, on ne va pas s'en sortir. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Prophète Habacuc, que vois-tu ? Église de Jésus-Christ, que vois-tu ? Que vois-tu, toi ? Personnellement, qu'entends-tu ? Monte sur la tour et tu vas voir que le monde n'est pas si beau que ça. Hein. Ça, c'est clair. Alors à son poste sur la tour, être au bon endroit au bon moment, eh bien nous voyons que la tour, c'est un édifice quasi militaire dans notre réflexion qui évoque le combat spirituel. J'en arrive là. Si l'Église a perdu la vocation et la notion de combattre, non pas contre la chair et le sang, dont tout ce que nous avons parlé, ça s'appelle la chair et le sang, la nature humaine, mais de combattre avec une dimension qui est celle d'Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la clé. Sur la tour, eh bien, on monte, finalement, dans cette dimension. C'est ce qu'on appelle la prière supplication, et je termine maintenant, verset 2-1. « Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après lui. » Et voilà la suite, voilà ce que Dieu répond au prophète. L'Éternel m'adressait la parole et il dit « Écris la prophétie, c'est formidable hein, ça. Écris la prophétie dont le temps est déjà fixé. » Les choses sont déjà fixées pour l'année à venir. La décennie, si Jésus n'est pas revenu, et puis peut-être encore davantage. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, parce que Dieu n'est pas menteur. Il nous dit la vérité que quelquefois nous ne voulons pas entendre, parce qu'elle nous dérange cette vérité. Et si elle tarde, attends-la. La patience est un fruit de l'esprit. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Les temps de désastre vont et risquent de s'intensifier, mes frères et sœurs. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est ce que la Bible nous dit en comparaison entre ces deux époques, Habacuc et le nôtre, et de garder la promesse sublime, celle que nous avons lue. Et mon juste vivra par la foi, même si en attendant le mieux se réalise le pire. Je vais vous donner des frayeurs hein, ce matin. Ouais. On n'est pas dans un monde de bisounours. Ben, vous savez aussi bien que moi, ça ne plaisante pas tout ça. Et je crois qu'il y a actuellement, devant les médias qui bombardent de tous les côtés, bon, je ne veux pas dire qu'ils ne font pas leur travail, s'ils le font dans la vérité, mais il y a de plus en plus d'angoisse qui monte dans le monde. Nous, on ne se sent pas trop concernés, mais je peux vous dire que les gens disent « Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va acheter ?» Vous savez, on ne va plus avoir peut-être de gaz et puis tout le reste. Hein. Ah oui. L'angoisse monte. Mais est-ce que c'est une angoisse qui est seulement le résultat de nos pertes que nous risquons d'avoir ? Ou alors c'est véritablement l'enjeu entre la vie et la mort ? Alors, à travers toutes les contradictions et les déceptions, quand rien ne s'améliore, souvenons-nous de ces situations paradoxales. Les gens attendaient le Messie en Israël et ils l'ont crucifié. C'est pas paradoxal, ça. Paul, qui était le grand apôtre de l'Évangile, on l'a emprisonné 2 fois 3 ans. Et c'est là où il a écrit. Parce qu'il pouvait dire, mais qu'est-ce que je fais en prison ? Je ne peux rien faire, je ne peux même plus évangéliser. Ben vous savez, il n'a pas perdu son temps, il a écrit les épîtres. 13 épîtres. C'est ça ce que nous avons à comprendre. Jean-Baptiste, qui était le précurseur, qui avait annoncé le Messie à Israël, eh bien, on lui a coupé la tête. On s'attendait à autre chose. Que dire encore? Eh bien, que dire encore ce que Paul écrit dans le livre des Actes? Nous espérerions que ce serait lui. Ben finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Jésus a été crucifié. Mais attendez, la suite glorieuse, il est ressuscité. Dieu demeure au contrôle de toutes choses. Alors, ne jugeons pas avant le temps. Il est 11h35. Nous pouvons juger jusqu'à maintenant, jusqu'à cette minute. Jugeons peut-être de l'histoire, c'est ce que nous avons voulu faire. Mais ne jugeons pas demain, après-demain, dans 8 jours, dans 1 mois, dans 1 an. On ne sait pas. Ne jugeons pas avant le temps. C'est une parole de l'apôtre Paul, ça. C'est une prophétie qui marche vers son accomplissement, nous dit le texte. Et si elle tarde, mes frères et sœurs, attendez-la. Attendez-la avec espérance. Attendez-la comme une délivrance. Attendez-la avec la joie et dans ce souffle de paix. Et pas le contraire, naturellement. Donc la conclusion, mais le juste vivra par sa foi, c'est le cœur de la prophétie que nous avons ouvert ce matin. Le cœur de la prophétie d'Habacuc. Le vrai juste est celui qui demeure, écoutez bien parce que c'est le mot, qui demeure dans la fermeté de sa foi, de sa confiance, de son espérance, et que cette fermeté soit inébranlable, comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Faut que ça se remette en place, hein, quelquefois. Ça bug. Mais à travers les épreuves, à travers des temps politiques qui sont troublés, à travers des conflits sociaux, à travers les persécutions, à travers des conflits meurtriers, et celui qui garde la foi et l'espérance en Dieu, avec ses promesses de secours, de protection et de délivrance, ce juste-là vivra. Nous vivons pour cette terre, mais nous vivons aussi pour de l'autre côté, en ayant traversé la fournaise de ce monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et ensuite, la deuxième étape que nous ferons, nous parlerons de la prière du juste et nous parlerons des résultats de cette prière à travers le dernier chapitre, le chapitre 3. On prie quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous sommes au cœur de l'actualité, notre actualité, l'actualité de notre monde. Et nous savons, Seigneur, que la présentation d'Habacuc, ce qu'il était en tant qu'homme, un homme qui aimait Dieu, un homme qui aimait son peuple, qui aimait ses frères et ses sœurs, un homme qui aimait, en effet, le bien. Nous croyons que, en effet, aujourd'hui, nous sommes placés dans la même situation. Tu bénis ta parole, tu bénis mes frères et sœurs, tu leur donnes cette paix, cette sérénité à l'intérieur, qu'ils ne sont pas tout seuls. Et tu nous rappelles, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Amen.